Bon, ben je vous remercie tous de les personnes qui sont présentes. Je remercierai les ordinateurs, Pierre Rich, Françoise et François Klein, qui m'ont lancé quelques pleurs, mais j'en ai pas sur la table. Oh. Bon. Mon histoire, c'est-à-dire que la vallée du Raboudou, c'est appelé la vallée des Lames. Après la guerre. Il y a eu 1012 déportés, 668 qui sont morts dans les camps nazis, 66% d'entre eux, et le nombre de déportés qui sont morts dans les camps nazis représente un tiers de la population des Vosges. Mon histoire, excusez-moi, je suis un peu... 1936, j'ai 6 ans. À la TSF, on entend les menaces de guerre d'Hitler. C'est un sujet de conversation entre mes parents et mes grands-parents maternels qui ont connu la guerre de 14-18 et qui étaient en plein dans les combats. 1937, j'ai 7 ans. Ma maman va mourir suite à une intervention chirurgicale. 1938, j'ai 8 ans. Mon petit frère et moi, nous allons, pendant les vacances scolaires, à la crèche, on appelait comme ça à l'époque. Et un jour que nous nous trouvons sur la route qui mène au cimetière, le tocsin se met à sonner à l'église. Les sœurs nous disent, mes pauvres enfants, la guerre est déclarée. Tous les enfants, nous allons nous mettre à genoux au milieu de la route pour prier. Prier la Vierge imposante qui est prête à se paroissial. Et tout de suite après, je prends mon petit frère par la main et je cours chez moi. Mon papa est encore là et je pleure en larmes dans ses bras parce que je croyais que lui aussi allait disparaître. 1939, la guerre éclate pour de bon. En juin, mon père est immobilisé. Je me trouve chez une tante, à Mousset, une femme très autoritaire, très méchante avec mon petit frère. Je lui dirai, t'as rien à nous commander, t'es pas notre mère. Ces paroles sont de trop, parce que je... Je vais devenir un enfant battu. J'irai coucher au grenier sur le foin parce que on a des menus infects. Je coucherai même à la cave dans le noir. Je recevrai des coups de martinet. J'ai vu la débâcle de l'armée française. Tous ces militaires qui fuyaient l'ennemi. Et puis l'arrivée des Allemands. Ils seront trois, les premiers que j'ai vus, armés jusqu'aux dents devant la porte de ma tante. Cette tante, sa fille, mon petit frère et moi, nous cachons dans un coin. Les Allemands nous voient. Je suis obligé d'aller ouvrir la porte. Ils entreront pour vérifier qu'il n'y a pas de militaires cachés dans la maison. Puis ils mangeront, ils se mettront en table pour manger. Nous avions faim aussi, mais nous avions plutôt peur. Et puis, c'est le rationnement. On a droit à 100 grammes de pain par jour. À l'époque, on ne trouvait pas de pain long dans les poubelles comme aujourd'hui. L'assistanat n'existait pas. Les allocations familiales non plus. La terre n'était pas trop basse parce que tout le monde, sans distinction, cultivait le moins de centimètres carrés de terrain. Pas comme aujourd'hui, quand on voit tous ces jardins à l'abandon. Et puis, on avait faim. Ma tante élevait des poules. J'ai appris que les Allemands sont gourmands des œufs. Alors je vais aller en chipper deux que je vais dans mes poches. Je vais me rendre à la cantine des Allemands au sous-sol de la crèche. Je demande Nixbrot. Les Allemands montent à la sortie du local. Moi, je sors les deux œufs de mes poches et je leur montre. Les Allemands me disent comme, et me donnent en échange une miche de pain noir. Surprise, ma tante me dit, où as-tu eu le pain là? Je lui dirai que j'ai chipé aux Allemands. Et puis, un jour, ma tante me surprend dans le poulailler. Alors, les coups pleuvent à nouveau. Et comme je disais, je vais coucher à la corde noire. Mais je suis intrépide. Je continue à aller à la chasse aux œufs. Mais je prends mon petit frère par la main et en échange des œufs, on a droit à manger à la popote des Allemands. Le temps s'écoule. Ma tante me frappera à nouveau. Un jour que j'en ai marre, je vais scier avec une scie à métaux le manche, une partie du manche du martinet. Le manche lui restera dans les mains. C'est plus avec le martinet qu'elle me frappera, c'est avec un bâton en bois. 1942, j'ai 12 ans. Mon père est malade dans les stalags allemands. Il est relâché par les autorités allemandes parce qu'il ne peut plus travailler. Mon petit frère est noué. Quand nous voyons arriver, lui sautons au cou. En pleurant, en lui suppliant de revenir tout de suite à notre maison. Il aura une conversation avec sa sœur. Et puis, quelques jours après que nous sommes rentrés chez nous, à l'époque, les sanitaires n'existaient pas. Je prends mon bain dans une bassine en fer que j'ai placée au milieu de la cuisine. Et alors que je prends mon bain, mon père me dit « Qu'est-ce que c'est tous les plaies que tu as sur le corps ?» Je finirai par lui dire Il n'adressa plus jamais la parole à sa sœur. Et mon père va rentrer dans la résistance. Je vais le suivre. Je vais découvrir qu'il va se coucher le soir avec un revolver sur la tête d'oreille. Et puis, mon père est tailleur d'habits. Il a une forte clientèle. C'est seulement pour cette raison que les résistants se réunissent chez nous pour écouter Radio Londres. Moi, il faut baisser le son au minimum pour ne pas être mouchardé. Moi, pas d'instinct, je fais le guet devant la maison, faisant semblant de m'amuser. Et puis, mon père continue à être en résistance. Il va avoir une certaine confiance en moi. Et c'est moi qui, avec des messages cachés dans mon slip, y reporter les messages aux résistants et même aux gendarmes de la brigade de Mousset. Je me souviens un jour, alors que je me rends dans ce village, arrivé près de la croix de mission, le pneu arrière de mon vélo éclate et provoque un gros pet. La sentinelle allemande, qui est toute proche, braque son fusil sur moi en prononçant des mots furieux. Alors je lui montre l'état de mon vélo et il se met à rigoler. S'il a eu peur, moi aussi j'ai eu peur. Car j'ai dans mon slip un message pour les gendarmes. Les événements se poursuivent. Il arrive les parachutages des Anglais. J'assiste au parachutage avec mon père et tous les résistants. C'était comme de la magie de voir arriver au sol ces hommes, ces munitions, et même d'Égypte. Et puis, mon père qui est tailleur d'habits a une grosse clientèle. Dans l'écurie, au fond de la grange, il va y avoir un abattoir clandestin. Ce sera des hommes de métier qui tueront les bêtes. Je ne saurai jamais la provenance et j'assisterai jamais à l'abattage des bêtes parce que j'aime trop les bêtes. Les gendarmes viennent chez nous chercher la viande. Les résistants aussi, un sac à dos. Quand les gendarmes sont prêts à partir de chez nous avec leur chargement de viande, je vais me placer un peu plus loin à l'intersection des routes pour m'assurer qu'il n'y a pas de patrouille allemande. S'il n'y a rien à signaler, de ma peau je sors un gros mouchoir blanc et je lève en l'air pour faire savoir qu'il n'y a pas de danger. Par contre, s'il y a danger, je prends mon vélo et je fais le tour du village en éclaireur. Je monte par derrière chez nous, sur le chemin des roches, qui devient mon observatoire. De là, je verrai beaucoup de combats d'avions. Des avions qui seront abattus, mais que je ne pourrai pas identifier, avec une fumée noire au derrière, qui tombe derrière comme cet avion qui est tombé, un avion canadien qui est tombé à la porte aux Aston, dans un beau fracas. Et cet avion que je voyais me tomber dessus et qui mitraillait la cloche à gaz dans un fracas infernal. Les rangs de la résistance grossissent. Mon père m'a donné une liste de collabos du village. Je les connais tous. La plupart ont mis le brassard FFI quand les Américains sont arrivés. Arrive le 24 septembre 1944. Ce jour-là, c'est un dimanche. Le soleil, le ciel est bleu. On se réjouit, mon petit frère et moi, parce que c'est la fête patronale à Stone et il y a quelques manèges. Et tout à coup, le village va être cerné. Et les nazis vont rentrer dans chaque maison pour nous expulser à coups de crosse de fusil et de mitrailleuse. On quitte les maisons. Comment on est? Mal chaussé. Avec une veste ou pas. Et tous. On est rassemblés devant la mairie. D'un côté les hommes. De l'autre côté les femmes et les enfants. Moi qui n'ai plus de maman, je vais mon père de l'autre côté et je m'approche du rang des hommes avec mon petit frère par la main. Mon regard va croiser celui d'un collabo. Un collabo qui n'a pas été prévenu à temps pour aller se cacher. Il partira avec les autres. En face de nous, les nazis. Mitrailleuses, mitraillettes. Au point, fusil mitrailleur. Et les hurlements. Hurlements des nazis qui nous menacent. Tout à coup, à un ordre donné, les autres s'en vont à pied. Du côté du col du Hans, on ne saura pas qu'ils iront. Tout le monde croit qu'ils vont travailler en Allemagne, parce que personne ne sait qu'existent les camps d'amour. Brutalement, les jeunes filles vont nous bousculer pour nous enfermer dans l'église. L'église est prévu pour 400 à 500 personnes. Nous serons plus de 1000 habitants enfermés dans l'église pendant près de 5 heures. Dans l'église, il y a des malades, des personnes qui toussent, des mamans qui ont leur bébé sur les bras. Tout le monde sait. Tout le monde, c'est un grand mot, mais beaucoup de nous savent ce qui s'est passé au Radio-sur-Glane par Radio Londres. Les sœurs nous disent, mes enfants, ils vont nous tuer, priez, priez mes enfants. Les gens prient. Les nazis hurlent. Ils arpentent les allées de l'église, ils montent sur l'autel avec leurs armes. En braquant sur nous, à tout moment, on pense qu'ils vont nous massacrer. Mais personne n'a peur. Personne ne fait voir sa peur. Avec mon petit frère par la main, je vais me sauver. Je m'approche de la sortie. En face, une mitrailleuse est braquée face au parvis de l'église. Impossible de se sauver. Et puis, à un moment donné, les Allemands nous font sortir de l'église, nous expulsent, sans explication, bien sûr. Mon petit frère prend la main. Je me trouve perdu dans la foule, dans les va-et-vient des nazis. C'est à ce moment-là qu'un couple de quinquagénaires s'appelait Marguerite et Prosper. Ils nous amènent chez eux. On a mangé du pot-au-feu qu'avait été cuisiné la vieille. C'était bon, parce qu'on avait faim. Et Prosper, il dit, Marguerite dit, les Allemands ayant pillé plusieurs maisons, et si les Allemands avaient mis du poison dans la soupe, Prosper, il dit, on verra bien si on a des coliques. Et puis on apprend, les nazis ont tué deux femmes, une dame en bas du village, et puis en face, rue du Faubourg, j'y cours, parce que la dame est blessée, mais blessée mortellement. J'arrive, près de la pauvre femme, son fils était penché sur sa maman qui allait mourir, parce qu'elle perdait son sang. Elle avait reçu une rafale de mitrailleuse. J'ai fait croire à la santé de l'Allemagne que je suis de la famille qu'il faut un docteur. L'exécuteur terroriste. Alors, je cours à la crèche chercher une soeur infirmière qui vient avec sa mallette. Elle sera refoulée brutalement par ce nazi. Et la pauvre femme mourra après avoir perdu tout son sang. Sur le registre d'état civil à la mairie d'Apatitran, figure en marge de sa naissance, mort pour la France. Et quel crime reproche-t-on à ces femmes? Le seul fait d'avoir été à la petite messe du matin et de tourner le dos à la mairie. Et puis, mon petit frère et moi, nous rentrons dans notre grande maison. On a peur. Mon père m'avait toujours dit, m'avait tracé un chemin que je devais prendre pour me fuir chez notre tante Mousset, en cas que les hommes, si les hommes m'emmènent chez nous. L'ami de mon père et sa fille vont venir chez nous parce qu'elles aussi ont peur. On va tous coucher dans la même chambre. Et même mon petit chien, que j'avais oublié dans la tourmente. Il est 2 heures du matin. Des grands coups dans la porte. J'ouvre la fenêtre. 3 nazis qui me semblent d'ouvrir la porte. Je vais réveiller mon petit frère pour fuir par derrière. La maison est cernée. Il y a des Allemands partout. Alors je descends pour ouvrir la porte. Les Allemands ont tellement tapé fort avec leur crosse de fusil que la serrure, j'arrive plus à ouvrir la porte, la serrure est abîmée. Alors je dis aux Allemands, je ne peux pas ouvrir la porte. On tire, que je dis. Non, 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 que je dis. Je vais ouvrir la porte de la grange. Alors, je vais ouvrir la porte de la grange. Et comme des fous, les 3 nazis de Randon pénètrent. L'officier nazi qui parle aussi bien français que moi va ordonner à ses hommes de m'enfoncer son fusil dans le dos pour que je monte l'escalier. Arrivé en haut, L'officier allemand me semble ouvrir la porte de l'atelier de mon père. Il y a le maquis ici, en découvrant tous les habits que mon père confectionne. J'ai un mal fou pour lui faire comprendre que mon père est tailleur d'habits. L'officier allemand m'enfonce son revolver dans l'estomac pour que j'avoue. Je dis n'importe quoi. On revient à la cuisine. Officiellement, me renfonce à nouveau son revolver dans le ventre en me disant on emporte tous les hommes, même tous les hommes depuis 18 ans. Rongé par la peur, je lui dis j'ai plus de 18 ans. Mais non, tu n'as que 14 ans, corrige l'ami de mon père. Ah oui, c'est vrai. Le nazi renfonce une troisième fois son revolver dans mon estomac pour me dire, dis la vérité. Pas d'instant, les deux nazis qui sont plus loin ont la gâchette sur leur fusil. Et puis, l'officier nazi va dans la chambre à coucher, au fond du lit, ça bouge. Qu'est-ce qu'il a dessous, dit-il. Je dis, c'est mon petit chien. Le nazi va me rendre la crosse de son âme. Il va donner un grand coup sur le chien. Qui se met à hurler. Il ne sera pas tué. Cette nuit-là, les Allemands m'ont amené plusieurs femmes à l'hôtel en face de chez nous. Ma fenêtre était ouverte. Celle de l'hôtel aussi. Et je vais... Dehors, c'est de la nuit noire. Et je vais entendre des hurlements comme des appels au secours. Les Allemands ont amené de force des femmes qu'ils vont violer. Je ne saurais jamais combien qu'elles étaient. Et puis, ensuite, les SS ont laissé la place aux soldats de la Wehrmacht qui m'ont réquisitionné des chambres un peu partout. Et ma chambre sera occupée par un soldat allemand, un jeune soldat allemand de 20 ans qui en a marre de la guerre, qui en a marre d'Hitler. Ce jeune allemand va partager ses rations alimentaires avec moi. Tous les jours, il s'en va avec son tank du côté de Bakara, parce qu'il est tenu à obéir aux ordres de ses chefs. Un beau jour, il ne viendra plus. Je demande à ses camarades où est passé Willy. Ses camarades me diront. Il a eu la tête coupée par un obus. J'ai pleuré cet Allemand parce que je m'étais familiarisé avec lui. Et puis, je vais me faufiler dans les chambres des Allemands pour avoir à manger. Et ce sont les Allemands qui me diront de me méfier des collabos des nazis, des miliciens, des pétainistes. Et puis, je vois que le temps, mon temps de parole commence à s'écouler. On va arriver à la libération. Mais ce que je veux citer, c'est que je vais être chargé parce que j'ai plus de parents. C'est l'ami de mon père, ses parents, qui me surveillent. Je me débrouille comme je peux. Je suis chargé d'aller tous les jours dans une ferme chercher à manger. Et si j'y passe, mon sac à dos rempli J'ai pas de compliments. Au contraire. Je me souviens. Une, deux, trois fois, j'ai flâné. Je me suis mis assis sur le talus. Et puis j'ai regardé le ciel bleu. Il me semblait voir le visage de ma maman. Et puis, avec la vague d'avions américains qui passaient en permanence pour aller bombarder les villes allemandes, je me disais, mon papa est peut-être sous les bombes. Et puis, mon petit frère, je ne vois plus. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, assis sur le talus, je me mets à pleurer. Et mon petit chien Marquis, me léchait les larmes qui coulaient le long de mes joues. L'avant-dernier jour de la libération, malgré les combats qui sont tout proches, je suis encore obligé d'aller chercher à manger dans cette ferme. Quand j'arrive à la ferme, alors que les balles, j'entends les balles siffler, que je vois les balles transcendre, que j'entends les coups de canon de plus en plus proches, à la ferme, tout le monde dans les corps. On me dit de rester avec eux. Je dis non, on m'attend en bas. Et malgré les risques, je redescends au village. À la sortie du petit bois que j'étais obligé de traverser, je vois 8-10 Allemands, fusil à la main, prêts à tirer. Par réflexe, je me jette dans le fossé. Mon petit chien me suit. Les Allemands, m'enjambront sans me voir. Quand je rentre à la maison, je me ferai enguirlander. Pas parce que j'ai pas de ravitaillement, mais parce que je suis plein de boue. Mais je ne dirai jamais pourquoi j'étais plein de boue. Et puis, on couche à la corde. On couchait sur des tas de patates avec le nez qui collait au plafond. On respirait le moisi. Ça puait tellement qu'on avait le goût toute la journée. Et le jour de la libération, je ne voulais pas rester couché, rester enfermé à la cave, à la lumière des bougies. J'ai sorti du haut, j'ai traversé le grand jardin, et puis j'ai vu. Je regarde du côté de la Rochelle. Je voyais les Allemands qui fuyaient le fusil à la main. Et puis je vois. Les Allemands avaient construit un barrage à travers de la route qui était haut de 400 mètres. Et puis je vois tout à coup un char. Et je dis, c'est les Américains. Le char arrête. Il va tirer. Deux, trois coups de canon. Et je vois sous mes yeux le barrage qui se part en éclats partout. Et puis je vois un deuxième char. Je recours de l'autre côté pour aller sur la route. Alors que tout le monde est dans les corps, je suis le seul, le gamin. Au milieu de la route, qui fait du bras, dans les bras, pour faire arrêter le char qui vient. Le char aurait pu m'écraser, ou bien il aurait pu tirer sur moi. Non, le char va s'arrêter sur le bord de la route. Et les autres qui suivront, l'un après l'autre, tous à l'autre.
Je vais crier pour que les gens sortent, que les Américains sont là. Les gens vont sortir prudemment. Et moi, je vais monter sur le premier char. Les Américains vont me donner du jim gum. Le jim gum, je ne savais pas ce que c'était. J'ai découvert le jim gum. Et puis les gens, les Américains vont rester là pour la nuit, vont nous conseiller de passer encore une nuit à la corde. Et le lendemain, ça va être défilé des chars qui partent sur l'Alsace, tout ça. Les drapeaux tricolores sont sortis. Les gens sont, tout le monde est sur le bord de la route. Moi aussi, encore mon petit chien. Même mon petit chien, comme nous tous, on n'est pas habitué à ça. Et mon petit chien, tout à coup, va vouloir traverser la route. Il va être écrasé sous les chaînes d'un char, sous mes yeux. Et tous les chars qui suivent vont passer dessus. Il ne restera plus qu'une tache rouge sur la route. Mon petit chien, qui m'avait peut-être sauvé la vie deux jours avant, je l'ai pleuré. Je ne vais pas parler de toute la période jusqu'à le retour de la déportation. Quand mon père est arrivé, il était au camp d'Achaux. J'ai reçu un message de lui. C'était le 15 mai 1945. Le même jour, j'avais été appelé à la mairie par mon directeur d'école et le maire, qui m'avait proposé la place de secrétaire de mairie. Parce que le secrétaire de mairie était mort en déportation. Ils avaient eu confirmation. J'ai dit, attendez, j'ai dit, mon père, rentre demain, je vais recevoir un télégramme. Mon père voulait que je fasse un métier de tailleur d'habits. C'est avec une grande impatience que j'ai attendu le retour de mon père. Seul dans ma maison. Il est arrivé le 16 mai, vers 11h du matin. On s'est jeté un œuf dans les bras, en pleurant. J'ai trouvé mon père bien, bien léger. Il pesait plus que 34 kilos. Les salopes. Oui. Il avait reçu 25 coups de bâton sur les reins pour avoir ramassé un morceau de pain. Des coups qui lui seront fatales puisqu'il mourra d'un cancer des reins. Ensuite, je suis rentré à la mairie d'Apitran. J'ai eu une tâche pénible, je ne connaissais rien au travail. Le maire m'avait dit, on t'apprendra le travail. Il y a 15 ans, j'étais secrétaire de mairie. Le secrétaire principal était un conseiller général, étant toujours absent. Je devais gérer administrativement une population de 1500 habitants. Les premiers hommes qui sont venus à la mairie pour avoir des cartes de combattants résistants et des primes, et bien c'était les anciens collabos des nazis. C'était eux qui avaient le courage de venir demander, alors que les véritables résistants, ceux qui avaient souffert, attendaient qu'on les convoque à la mairie. Mais moi, le gamin intrépide que j'étais, au risque de, je ne sais pas quoi, je fichais à à la corbeille les dossiers de ses collabos. Et comme c'était moi qui brûlais tous les soirs les papiers de la corbeille derrière la mairie, il n'y avait plus de traces de ces dossiers. Mais certains ont passé à travers. Et certains ont été décorés devant mes yeux alors que j'étais correspondant de presse, parce que j'avais été sollicité pour être correspondant de presse, parce qu'il n'y avait plus d'hommes dans les villages, pour ainsi dire. Et vous savez, j'avais envie de crier, c'est des nazis, quand je prenais les photos de ces hommes qui étaient décorés et que je savais que ça avait été des collabos des nazis. Bon, je rêve tellement de choses encore à dire. J'en aurai pour longtemps. Mais j'ai écrit un livre que je raconte tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé, que j'ai connu. Mon petit frère, lui est mort à l'âge de 17 ans. Sans doute, des mauvais traitements, de mauvaise nourriture que nous avons eue. Et mon père est mort à l'âge de 49 ans, des suites de cancer des reins. Mon histoire sera encore longue. Elle est écrite dans mon livre. Je vous remercie de m'avoir écouté.